Tam Israël, des infos, de la culture, un invité, une émission proposée par Thierry Rose, Dan Leclerc et Alain Lévy. Prenez une chaise et écoutez-moi.
Shtam Israël, Shtam, de retour dans le radio, dans le bureau, dans le studio de Radio Judaïka. Thierry Rose, bonjour.
Bonjour, est-ce que les fêtes se sont bien passées?
Oh, merveilleux. Bah, comme on n'a pas mangé la semaine dernière, c'était parfait. Il y a quelques semaines, tout tour. Ça nous fait du bien de temps en temps. Avec nous également en studio, Alain Lévy. Bonjour, Alain.
Bonjour, Dan. Bonjour, Thierry.
Il s'est habitué. Il était bien avec nous. Il a dit je vais revenir. C'est Yossi Mergui de la Chambre de commerce France-Israël. Bonjour.
Bonjour à vous tous.
Bonjour, Yossi Mergui. Ça nous fait du bien de nous retrouver tous et toutes ici. Après ces fêtes, comme tu l'as dit, tu dis dans le générique d'annonce prenez une chaise. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous coucher, vous mettre dans un transat, si vous êtes au bord de la plage, tout est possible. On ne voudrait pas vous restrictionner dans cette émission de Shtam Israël. Shtam.
Tu as dit comment restrictionner?
Restrictionner, oh, ouais, restreindre, ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est bien que tu me reprennes quand je commence à partir en divagation. Excusez-moi, je ne savais pas le bon mot qui arrivait. Ambiance sur le plateau ici de Radio Judaïka dans cette émission Shtam Israël. Alain Lévy, tu as écouté la semaine dernière, il y a quelques jours maintenant, l'interview, le passage de Yossi Mergui qui est avec nous à nouveau sur le plateau, et tu souhaitais réagir.
Oui, j'ai trouvé des points communs avec Yossi que je ne connaissais pas. La première, c'est que tu habitais au Maroc, moi aussi. Tu as fait tes études à Lyoté, moi j'habitais Port-Lyoté. Donc je suis très heureux de rencontrer un co-religionnaire, si je puis dire, entre guillemets, avec cet amour que l'on porte au Maroc. Et j'ai entendu les propos tenus sur la Chambre de commerce franco-israélienne et ton engagement à promouvoir les entreprises françaises et aussi israéliennes à faire de l'osmose entre ces deux pays. Moi-même, j'ai beaucoup participé dans le cadre de mes activités professionnelles en développant des réseaux de franchises à essayer d'emmener des entreprises israéliennes en France, c'est très difficile, et à convaincre des entreprises françaises à aller en Israël, notamment par rapport au sujet de l'Alia, pour avoir une Parnassa. Donc je suis très heureux de t'avoir entendu, de voir que tu as un engagement là-dessus et que tu vas t'y consacrer. Voilà, si je peux apporter une contribution, je le ferai avec grand plaisir.
Alain, précisons peut-être juste le terme de Parnassa qui n'est pas forcément accessible à tous les non-coreligionnaires.
Voilà, alors puisque la thématique c'est l'Alia, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir travailler en Israël, donc travailler,
survenir
aux besoins de sa famille, à ses besoins propres, et il n'est pas évident d'arriver en Israël et de trouver un métier. Donc par rapport à ça, effectivement, la franchise était une trempe de lancement très intéressante, puisque des entreprises françaises, je pense à Carrefour, je pense à Intersport, je pense à Kiabi, je pense à toutes ces enseignes-là qui sont intéressées ou ont été intéressées et aujourd'hui sont implantées, de pouvoir avoir des entrepreneurs français qui vont représenter ces enseignes françaises en Israël pour pouvoir développer leur enseigne, leur concept, leurs produits, etc. Donc c'est à ce titre-là que ton engagement dans France-Israël Grand Est m'a interpellé et je souhaite bien sûr tout le succès à cette association.
Merci.
Pour pouvoir réussir. Donc par rapport à... Voilà, c'était la raison pour laquelle je suis content de d'être autour de cette table avec vous. Et avec toi notamment, lui aussi.
Alors, juste une petite question technique que je risque d'oublier tout à l'heure. Tu parlais de l'installation de Carrefour. J'ai entendu, peut-être que l'un de vous deux peut répondre, les lois ont un petit peu changé au niveau de la régulation alimentaire en Israël pour permettre à Carrefour justement de développer plus de références, parce que je crois que Carrefour a 5000 références, quelque chose comme ça en alimentaire. Ouais. Et la régulation, enfin les lois israéliennes ne permettraient d'en développer que 500.
Je ne suis pas trop versé sur le sujet. Ce que je sais pour sûr, c'est que Israël est une grande famille, mais c'est une famille qui a commencé avec des acteurs pionniers et qui ne voit certainement pas d'un bon œil si on s'appelle Osem, si on s'appelle Tnuva, si on s'appelle...
Les produits génériques de Carrefour.
Voilà, on voit arriver des produits de l'extérieur. C'est une dynamique qui est pernicieuse parce que... Israël est basé sur le libre commerce, sur la libre concurrence.
L'OCDE.
Des monopoles, beaucoup de monopoles.
Mais en même temps,
c'est ça.
Ouais. En même temps, il contient beaucoup de monopoles qui ont servi de très belles familles, qui ont certainement sont aujourd'hui jalouses de leur prérogatives locales. Mais voilà, le monde s'ouvre, il faut qu'Israël s'ouvre aussi.
Est-ce qu'il y a une volonté peut-être aussi de créer de la concurrence pour faire baisser les prix, parce que l'inflation fait des ravages en Israël au niveau alimentaire.
Ce qui est fou, c'est qu'en Israël, on possède des frontières exceptionnelles avec des voisins qui pourraient aussi être exceptionnels. Et aujourd'hui, en étant une sorte d'enclave au milieu d'une géographie complexe, c'est sûr qu'Israël ne peut pas profiter du laitier jordanien aussi facilement qu'on le voudrait.
Ou chercher de l'essence à Kehl.
voilà, comme aller chercher de l'essence à Kehl, alors qu'on pourrait aller du côté d'Aqaba, etc. Donc c'est compliqué, Israël. Donc c'est toute proportion gardée, c'est un petit peu ce que vit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, pour respecter les normes françaises. Au lieu d'imprimer, d'importer, c'est mon métier d'imprimeur revient à chaque fois, au lieu d'importer l'essence du Venezuela qui coûte encore moins cher que l'eau, on est obligé de la faire venir de France parce qu'elle doit respecter des normes européennes. Voilà, c'est un peu
D'ailleurs, je pense que dans cet esprit libéral dont vous parliez tous les deux, l'esprit libéral qui entre en Israël, la concurrence est saine et... Ce que disait Alain, il y a effectivement des familles qui ont certains monopoles, et comme ça se fait d'ailleurs au Moyen-Orient d'une manière générale, ce sont des familles pionnières, il ne faut pas leur enlever leur succès.
Leur parnassa de la bouche.
Leur parnassa. Mais à un moment donné, le monopole n'est pas toléré en France, hein, puisqu'il y a des régulations. Mais en Israël, je pense qu'on a effectivement peut-être besoin de ça en neuf, non ?
Oui, je pense qu'on a besoin de s'ouvrir. Tu parlais tout à l'heure de Alia, de cette capacité de se créer sa parnassa, donc son revenu quotidien. Ce qui est sûr, c'est que en Israël, il faut être miscible, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'évoluer, de comprendre la langue. C'est très complexe si on n'a pas cette phase intermédiaire où on se donne cette agilité linguistique. Israël est un pays qui a des comportements vifs. Il faut être capable de comprendre, d'interpréter. Ouais. Moi, une de mes grandes forces, quand j'ai appris l'hébreu en Israël, c'était d'apprendre le slang israélien, donc l'argot. L'argot, parce que l'argot fait partie de la vie de tous les jours. Et l'argot traduit... J'apprenais par exemple les blagues du Hagashash HaRiver, c'est une troupe satirique, parce que c'était dans la culture. Quand on disait Kama, c'était Ma Kama, ça faisait partie d'un sketch israélien. Et donc, le français qui arrive dans une posture parfois un peu crispée, qui croit que... En apprenant juste l'hébreu, ça suffit. Moi, je dis ça suffit pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la société israélienne est formatée grâce à Tsahal, l'armée nationale, et populaire, il faut le rappeler, parce qu'elle est vraiment un berceau du nouveau comportement israélien de tout jeune qui la rejoint. C'est souvent pourquoi...
Et un melting pot aussi.
Voilà, c'est un melting pot. C'est souvent pourquoi les enfants d'immigrés réussissent mieux que les parents eux-mêmes. Ah oui. Et même si on dit qu'on peut devenir millionnaire en Israël, il faut se rappeler qu'il faut y arriver milliardaire.
Voilà.
Alors, Alain, quel est le thème aujourd'hui que tu as choisi pour l'Alia ?
Justement, c'est le millionnaire.
Non, c'était une blague. Je voulais dire ça parce qu'il y a une réalité économique en Israël qui est dure. Mais en même temps, voilà, c'est le pays de nos ancêtres, c'est le pays qui nous offrira toujours la protection ultime. Et clairement, c'est un pays où on vit à la dure, il faut être clair. C'est pas chalav ou d'vache, le lait et le miel tous les jours.
Ouais, oui. C'est la raison pour laquelle parfois l'alias se tarit un petit peu, comme on l'observe ces derniers temps. Mais on ne va pas aller sur des notes un peu négatives. Moi, j'aurais aimé donner quelques informations factuelles sur ce qu'est aujourd'hui Israël, avec quelques chiffres, mais pas trop. Savoir qu'aujourd'hui, c'est 9 600 000 habitants. C'est quand même considérable. Par rapport à 1948, à la création, 850 000. Donc la population a été multipliée par 12.
Quand est-ce qu'on va passer à 10 millions? Je crois que c'est cette année encore.
Alors bientôt, j'ai des chiffres là pour 2050, la population aura doublé, elle sera de 18 millions d'habitants. 18 millions d'habitants. Aujourd'hui, la densité au kilomètre carré, il faut rappeler que c'est un petit pays de 20 500 kilomètres carrés, c'est 460 habitants au kilomètre carré. En France, c'est 106 habitants au mètre carré. Donc tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les infrastructures, les constructions, la consommation de foncier, la consommation d'eau. Alors, par exemple, pour la consommation d'eau, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, la consommation annuelle est de 2 200 000 mètres cubes par an. Elle va passer à 3 500 000. C'est aussi le trafic routier. Il est attendu plus de 200% d'augmentation des voitures sur les routes.
C'est-à-dire que nous, on diminue à Strasbourg et eux, ils augmentent de 200% et on est déjà dans la population.
Si un homme a misé en vaut deux, alors Israël, automatiquement, on a doublé la population, c'est sûr.
Non, mais tout ça, ce sont des chiffres qui ont des contraintes et des engagements pour le gouvernement, pour beaucoup de gens. Donc, bientôt, ce sera 10 millions de voitures en Israël. Donc, ça veut dire que
des lits
d'hôpitaux, 5 000 lits d'hôpitaux en plus tous les 10 ans, 7 000 médecins supplémentaires et 13 000 infirmiers tous les 10 ans.
Ouais, dont 4 000 psychiatres.
Donc aussi les bus, les trains qui augmentent, donc tout ça, c'est quelque chose.
Alain, j'ai vu des chiffres également sur le nombre de juifs dans le monde. Il y a aujourd'hui 15,7 ou 3, je sais plus, millions de juifs dans le monde. La majorité en Israël, bien sûr. D'abord, Israël, États-Unis, France.
70% à peu près de juifs.
Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est la loi du retour. Alors, c'est-à-dire combien de gens sont habilités éligibles à la loi du retour.
Je suis pas le seul. Hein.
Alors, pour être éligible à la loi du retour, il faut avoir
un grand-père
voilà, qui soit juif. Donc aujourd'hui, justement, ils limitent le nombre de personnes devant faire l'alia, surtout pour les personnes qui viennent des pays de l'Est, parce qu'on n'est pas sûr, effectivement, que ces personnes-là...
Le chiffre donc annoncé...
60 000 à peu près...
C'est 20 millions.
C'est-à-dire
qu'il y a 15 millions de juifs, mais 20 millions d'éligibles à l'Alia. Ça veut dire que le réservoir, du côté de la population juive, hein, bien sûr, il n'y a pas que des juifs en Israël, heureusement, le réservoir d'Alia est encore énorme, 20 millions de potentiels. Non, pardon, 20 moins 7. 13 millions de potentiels immigrants.
Alors, cela est lié aussi à la démographie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une femme a 2,9 enfants. Alors qu'en France, par exemple, c'est 1,8 et en Grande-Bretagne, c'est 1,6. Donc la population grandit. Le nombre de femmes aujourd'hui, c'est 49% en Israël. 49% et 51% sont des hommes. L'âge moyen, c'est 30 ans. Une croissance démographique importante de 1,8, avec un PIB aussi important.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu la course aussi, une espèce de compétition entre les différentes... composante de la mosaïque israélienne, c'est-à-dire que les juifs qui sont majoritaires, je crois qu'à 70%, en Israël, c'est un État juif et démocratique, il faut le rappeler, donc cet État juif et démocratique ne peut l'être que si il y a une majorité juive, je pense.
C'est clair. Mais ça devrait rester une majorité juive dans la mesure où, effectivement, on limite le fait de transmettre un passeport israélien à des gens qui ne sont pas juifs, considérés comme juifs. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle
On peut avoir le passeport israélien sans être juge, mais c'est plus compliqué.
Plus compliqué, mais aujourd'hui,
pour l'avoir en France, hein,
aujourd'hui, automatiquement, il était donné pour des périodes de 5 ans ou 10 ans. Et là, depuis le 10 juillet, le gouvernement a fait en sorte qu'on ne pourra avoir un passeport israélien que si on ne peut prouver qu'on a habité pendant la première année plus de 7 mois en Israël.
Ça a augmenté, parce qu'avant, c'était 6, me semble-t-il.
6-7 mois, voilà. Oui. Donc, à partir de là, on a un laissez-passer, mais on n'a pas un passeport, ce qui veut dire que toutes les personnes qui avaient demandé un passeport pour pouvoir sortir de certains pays, comme par exemple la Russie, l'Ukraine, etc., ces gens-là ont demandé un passeport israélien pour pouvoir de Russie ou d'Ukraine aller plus facilement dans un autre pays. Mais aujourd'hui, parce que tout cela avait des considérations politiques par rapport à Lieberman, par rapport à tous ces gens-là qui sont au gouvernement, qui avaient fait pression pour qu'on puisse accueillir beaucoup, beaucoup de gens. Donc, oui.
Est-ce que, avec le recul, Alain, peut-être aussi peut nous répondre, est-ce qu'avec le recul, ces immigrations de masse, j'entends surtout des pays de l'Est, est-ce que ça a apporté quelque chose de bon ou est-ce que ça a causé des problèmes à l'État ?
Je pense que voilà, Israël est un pays d'immigration, mais
il a toujours été.
Voilà, et comme l'Amérique l'est, je pense que toutes ces communautés qui rejoignent Israël contribuent par leur vitalité, leur identité à la mosaïque et à la vitalité israélienne. Moi, je trouve que c'est très très bon, que ça soit d'Éthiopie, que ça soit. Et c'est sûr, comme en France, quand les Italiens sont arrivés, quand les Espagnols sont arrivés, quand les Polonais sont arrivés, il ne faut pas oublier, la France, c'est aussi une terre d'immigration. Et en Israël, c'est juste plus violent parce que c'est un petit pays. Mais en France, on accueille tous les ans des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de 109.
C'est d'ailleurs au cœur des débats en ce moment en France. Voilà,
et j'en suis un, il ne faut pas oublier. Joseph Mergui.
Qui autour de cette table ne peut pas prétendre avoir été descendant d'un immigrant.
Moi, je suis très fier d'avoir expérimenté l'aventure israélienne et l'aventure française. C'est deux aventures exceptionnelles. J'ai pas de regret de ne pas être resté en Israël parce que on ne sait pas de quoi est fait la vie quand on laisse passer une opportunité. Ce que je sais pour sûr, c'est que je continue, si je n'ai pas fait ma alia de corps, je le fais aujourd'hui avec des capitaux. J'investis en Israël. D'ailleurs, mon premier investissement, c'est dans une ville israélo-arabe à Saint-Jean-d'Acre, à Caux, où je crée un immeuble d'affaires. Et c'était très, presque amusant. Touchant d'aller à la rencontre des élus israéliens d'origine arabe. Il y avait des Russes, il y avait des...
Quel est leur accueil, justement, Yossi Mergui, quand tu viens comme ça avec ces capitaux étrangers, avec cette envie
Je pense que quand on vient avec de l'argent en Israël, on est bien accueilli, non?
C'est la question que je pose.
Plus vraiment, parce que d'abord, on veut connaître d'une manière très précise
la nature des fonds.
L'origine. Voilà, l'origine des fonds, ça devient presque stalinien comme...
bonjour.
Comme méthode, on te demande vraiment de te mettre à nu. Mais bon, dans mon cas, c'était très facile, c'était très cachère.
De te mettre à nu?
Oui. je veux dire, l'origine des fonds était très facile à prouver. Donc mais c'est pas toujours évident. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette connotation de l'investisseur qui peut venir avec des sources de fonds pas toujours très... très clair. Voilà, donc moi dans mon cas, ma vie est transparente, donc il n'y avait pas de problème. Mais on parlait de la mosaïque et des apports d'immigration. Moi, je trouve que ce n'est pas un problème. Il ne faut pas le voir. Au contraire, il faut le voir comme une force, comme une opportunité. C'est justement la force d'Israël. C'est d'amener tous ces gens vers une vision commune, vers un but commun. Et j'attends ce jour où les populations non-juives rejoindront ce rêve israélien d'une société libre et démocratique, parce que je viens d'un royaume que je respecte, mais on peut pas dire que c'est pas la France, le Maroc. Israël, c'est pas la France non plus, mais ça offre beaucoup, beaucoup de liberté. Moi, j'ai évolué dans un milieu universitaire où il y avait juifs et arabes, et je rappelais à mes amis arabes que dans certains pays du Maghreb, il faut courir très vite si on veut manifester. Donc, et ce sont des choses qui sont souvent oubliées. Quand on a, comme moi,
État juif et démocratique.
Voilà, la chance d'avoir vécu ces différents environnements. D'une part, on apprécie la liberté israélienne.
C'est clair. Alain, l'Alia. Alors, revenons sur l'Alia. Donc, merci pour ces chiffres.
Juste un dernier chiffre, ouais. Et après j'arrête. Tu posais la question de savoir la population juive en Israël. En 2050, elle passera de 75% à peu près à 60%. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de juifs en Israël qu'il y en a actuellement. Les Arabes passeront de 15 à 20%. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le taux de ménage ultra-orthodoxe passerait de 8% aujourd'hui à 21% en 2060. Ouais.
Alors, voilà. Ce qui peut poser des problèmes sociaux. Hein.
Pardon ?
Quand on parle d'Israël et des Arabes, il ne faut pas oublier qu'il y a des Druzes, des Circassiens, des Bédouins, des Chrétiens. Il ne faut pas résumer Israël à Juifs et Arabes. C'est une société beaucoup plus ouverte et riche que juste ce clivage.
Bien sûr.
Voilà.
Ok, donc par rapport, quelques données qui se voulaient factuelles pour qu'on puisse reposer la situation aujourd'hui en Israël, où on voit que le développement va être énorme. Ça veut dire aussi que beaucoup de gens peuvent aller en Israël faire leur alia, si on a la capacité à pouvoir s'adapter au pays, apprendre la langue et avoir cette fameuse parnassa.
Alors, moi j'encourage l'alia, hein, qu'on soit clair, je n'ai pas réussi le parcours complet, mais j'encourage tous ceux qui ont la foi, qui ont le courage de faire cette expérience. Ouais. Mais je dis simplement, il faut se préparer. Il y a pas.
C'est évident.
C'est un marathon. Il faut s'entraîner avant, sinon on risque le claquage.
Voilà.
En dehors de l'aspect, on va dire un petit peu sentimental qui nous lie à Israël, qui est naturel, faire l'alia, bon, c'est une démarche spirituelle, mais je m'adresse justement, comme vient de le dire aussi, aux jeunes.
Oui.
Vous voulez faire votre vie à l'étranger, vous voulez pas forcément quitter la France, mais faire une expérience à l'étranger. Israël est un pays d'opportunité aujourd'hui.
Absolument.
Ouais, ouais.
Malgré le contexte géopolitique, l'âge stratégique, moyen, l'Iran, etc., ça reste un pays d'opportunité et d'avenir.
Honnêtement, on parle de contexte géopolitique, etc., mais la France est à quelques centaines de kilomètres de l'Ukraine. On est dans la même
configuration.
Panade. Le monde restera le monde avec ses turbulences et sa violence, etc., mais je dirais qu'Israël est dans une normalité. Quand on est en Israël, on ne sent pas du tout tout ça. On est dans sa bulle, on travaille. Et même, je dirais, ça vitalise, ça énergise l'invention. Ouais. Moi, effectivement, le mieux, c'est de faire ça à l'IA jeune, parce que on a plus de flexibilité intellectuelle, on est plus élastique pour tout ce qui est langue, pour tout ce qui est comportemental. Et
ce qui est quand même troublant, je vais dire, même qui interloque beaucoup de visiteurs qui ne connaissent pas Israël, c'est qu'on arrive quand même au Moyen-Orient, où l'état d'esprit n'est pas toujours celui qui règne en Israël, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, bosser, réussir, etc. Cette philosophie, c'est en cela aussi qu'Israël est une enclave dans ce Moyen-Orient, c'est l'état d'esprit entrepreneur, l'état d'esprit vouloir réussir sa vie économiquement et familialement. Et ça c'est peut-être le particularisme qui crée la dynamique.
Alors, le Liban l'a été pendant longtemps. Hein. Le Levant reste un des foyers de l'entrepreneuriat. Les Phéniciens ont inventé le commerce bien avant, mais tout simplement les conditions politiques ne sont pas réunies. Et donc, on voit bien qu'il faut que et la politique et l'économie se tiennent main dans la main pour pouvoir permettre les conditions et donner la liberté.
C'est l'écosystème de Macron.
Si tu réussissais en Syrie, tu avais directement un type qui venait te racketter. En Israël. Si tu es dans la technologie, etc., c'est sûr que si tu es dans une boîte de nuit, il y aura quelqu'un qui viendra. Mais comme en France, comme à Marseille, comme en Corse, j'en sais rien. J'y connais rien, je ne suis pas dans le monde de la nuit. Mais tout ce qu'on imagine possible en France peut se faire en Israël. Et tout ce qui peut s'imaginer en Israël peut arriver aussi en France.
C'est un beau mot de conclusion pour finir finalement. Le rêve israélien, à défaut du rêve américain, se concrétise d'un côté comme de l'autre et dans les deux sens.
Je crois qu'il est temps de conclure, messieurs et chers auditeurs. Donc je rappelle que nous recevions aujourd'hui, comme la semaine dernière, Yossi Mirgui, président de la Chambre de commerce France-Israël Grand Est.
Et entrepreneur.
Et entrepreneur de qualité.
Serial entrepreneur.
Et altruiste. Alain Lévy, monsieur Alia, qui nous retrouverons la semaine prochaine avec une invitée.
Oui, parce qu'on a été un peu trop masculin cette fois-ci. on va mettre un peu de féminin dans tout ça, c'est normal.
Donc nous inviterons Maître Kosman, qui est avocate en Israël. C'est une ancienne Alsacienne qui est aujourd'hui basée à Tel Aviv. Elle est notaire également, avocate et notaire. Et avec elle, nous échangerons sur les problématiques de l'immobilier et de la fiscalité.
Et nous nous réjouissons de l'entendre.
Merci de m'avoir reçu aussi. Et tu as parlé du rêve américain, du rêve israélien. Il y a le rêve français, mais il y a aussi le rêve tout court. Il faut rêver, il faut oser et il faut vraiment essayer de faire ce pourquoi on pense être capable de réussir. Donc ce qui est sûr, c'est que voilà. Il faut rêver.
Comme si je peux me permettre, amen.
Amen, amen. Et comme disait Feu Bernard Tapie, c'est pour ceux qui ont regardé ou qui suivent la série Netflix, il n'est pas trop tard.
Il n'est jamais trop tard.
Bonne journée, bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt.